Bonjour Ludo.
Bonjour Jacqueline, salut à tous.
Si nous avons peut-être l'impression, nous, que l'hiver n'en finit pas, la végétation, elle, a bien changé de saison grâce à une horloge interne qui régule l'activité du processus de croissance des feuilles ou d'éclosion des fleurs.
Exactement, ouais. Et les arbres verdissent à grande vitesse en ce moment. Les cerisiers sont en fleurs et les colzas aussi, par exemple, inondent la campagne de leur jaune vif. Parfois, ces changements surviennent du jour au lendemain. Cette horloge biologique, propre à chaque variété, en fait, hein, de plante ou d'arbre, se cale sur deux éléments principaux de l'environnement, la température et la luminosité. Donc les plantes détectent en effet que les jours rallongent, car elles sont sensibles aux différentes longueurs d'onde de la lumière. Et la température, elle, va impacter plus les floraisons. Les floraisons ont tendance à être plus précoces, en fait, avec des hivers plus doux. L'une des floraisons, Jacqueline, les plus étudiées au monde, c'est bien sûr celle des cerisiers.
J'espère que tu es allée au parc oriental à Maulévrier pour les voir, ces cerisiers en fleurs.
Pas cette année,
magnifique.
J'y suis déjà allé, mais pas cette année.
Magnifique.
Il y a les cerisiers aussi de chez nous, de notre bocage, que vous pouvez voir en fleurs en ce moment, mais il y a aussi ceux qui ressemblent à ceux de Maulévrier, les fameux et célèbres cerisiers du Japon. Et comme chez nous dans notre bocage, l'apparition des premières fleurs en fait survient depuis plusieurs années, de plus en plus tôt. L'INRAE, donc l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture et l'Environnement, note sur les
dés... L'alimentation et l'environnement,
et l'alimentation,
monsieur.
Ouais, c'est que c'est un peu lourd, ça, je trouve, pour les auditeurs, mais oui, c'est possible. Donc, chers auditeurs, si vous voulez savoir exactement, Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, pour être précis, voilà. Donc, l'INRAE note sur les dernières décennies une avancée de plusieurs semaines pour les bourgeons, fleurs et fruits. La conséquence, en fait, de tout ça, c'est la présence plus précoce, elle aussi, de pollen dans l'air. Le grand beau temps de samedi dernier, par exemple, a mis 68
départs. Le beau temps.
Ah, mais par rapport à tout ce qu'on a connu.
Oui.
A mis 68 départements français en alerte pollen, essentiellement pour l'un des premiers pollens de la saison, le pollen de bouleau. Et en Deux-Sèvres, nous étions juste en vigilance jaune.
Donc, avec le réchauffement climatique, les plantes démarrent leur végétation et leur floraison plus tôt. Mais cette précocité est-elle gage de qualité et de quantité comparable à il y a une trentaine d'années, par exemple?
Pourquoi 30 ans? Oui, ce n'est pas par hasard. Il y a une évolution négative sur ces points, c'est vrai. Les floraisons sont de manière générale, ça reste un cas général, de moindre qualité. Générées en fait par un phénomène de réchauffement climatique, qui lui, bien sûr, est lié à nos activités économiques, notre consommation d'énergie fossile, par exemple, et nos habitudes de consommation tout court. Mais cela entraîne aussi, en fait, le déclin des abeilles, papillons, fourmis ou encore des mouches. Que ce soit à cause du changement climatique directement, ou bien de l'urbanisation grandissante, ou encore de la pollution de leur habitat. Donc un problème se pose avec ces disparitions, en fait. C'est ces insectes qui forment avec les plantes un mutualisme, en fait. Ces insectes leur permettent de se reproduire en transportant le pollen d'une fleur à l'autre. Et en contrepartie, ils récupèrent du pollen et du nectar pour se nourrir. C'est la reproduction croisée. Donc ce n'est pas le seul mode de reproduction, mais c'est celle qui présente le plus d'avantages, en tous les cas, pour la survie et l'évolution d'espèces.
Si la reproduction n'est pas croisée, comment se débrouillent les plantes alors?
Ouais, on va se débrouiller tout
comment
seul.
Comment font-elles?
La majorité des plantes à fleurs sont hermaphrodites, en fait. Pas toutes, mais la majorité. C'est-à-dire qu'elles sont mâles et femelles. Donc de ce point de vue, elles peuvent pratiquer la fécondation croisée avec une plante voisine ou l'autofécondation. Donc elles préfèrent la fécondation croisée, soyons clairs. Mais l'idée, c'est que quand les conditions de pollinisation sont difficiles, l'autofécondation peut être avantagée. Par contre, elle a un gros désavantage, cette autofécondation, c'est qu'elle fait des produits consanguins. Et on sait que la consanguinité, en général, est plutôt néfaste pour la survie d'une espèce.
Est-ce que la baisse, Ludo, du nombre de pollinisateurs implique un changement de comportement des plantes à fleurs? Est-ce que ces fleurs s'adaptent dans leur reproduction à une moindre présence de ces insectes? That is the question.
Voilà une bonne question, madame. Alors, une étude, et il y a quelqu'un d'assez connu qui va y répondre, en fait, un peu pour moi. Une étude est réalisée par Pierre-Olivier Cheptoux. C'est pas n'importe qui, il est directeur de recherche au CNRS. Dans l'objectif, en fait, de voir l'effet du déclin des pollinisateurs sur les stratégies de reproduction des plantes. En fait, il a comparé la reproduction des plantes sauvages issues de graines vieilles de plus de 30 ans avec les mêmes plantes issues de graines d'aujourd'hui.
Et
résultat des courses, l'autofécondation est de 75% pour les variétés contemporaines contre 50% pour les variétés plus anciennes. Plus 27%, en fait, exactement, d'augmentation en moyenne en 30 ans. Et ça, c'est couplé à deux autres phénomènes. Les fleurs issues des plantes d'aujourd'hui avaient des fleurs plus petites, de 10% que les anciennes, et elles produisaient 20% de nectar en moins. il y a un phénomène où elles abandonnent la reproduction via les pollinisateurs, où elles ne cherchent plus à se faire belles en fait. Pour les attirer, elles sont plus petites et deviennent plus autonomes.
On peut dire que c'est plutôt positif que ces fleurs arrivent à s'adapter à une situation finalement compliquée.
Oui, on pourrait se dire ça, mais en fait, c'est pas sûr.
Pas si sûr,
parce qu'en fait, à moyen long terme, quand on a une reproduction sexuée avec soi-même, on finit par s'appauvrir génétiquement, parlant en tout cas. Et donc, il y a un risque d'avoir moins de potentiel adaptatif, et donc d'extinction plus élevée. Autre problème, le cercle vicieux. Moins de pollinisateurs égale des fleurs moins attirantes avec moins de nectar, est égal à encore moins de pollinisateurs, etc.
Va-t-on assister alors à la fin du mutualisme fleurs-pollinisateurs ?
Non, Jacqueline.
Ouf !
N'y crois, rien n'est perdu. Rien n'est jamais perdu. Il suffit juste de respecter les plantes et avoir confiance en la nature. Les plantes qui sont base de nos systèmes du vivant, respecter les plantes pour favoriser les pollinisateurs, ce qui favorisera les plantes et leur diversité, et refavorisera les pollinisateurs. C'est le cercle vertueux et non plus vicieux. Voilà. Faites attention aux plantes et à leurs fleurs, comme par exemple dans les chemins de randonnée et dans les prairies au printemps lors de vos balades bucoliques.
Toujours raison, celui d'eau. Merci.
Et bonne journée. Ciao.